Voilà, c'était le beau Danube bleu. Donc ça fait partie du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors on redescend sur Terre avec Patrice Hénin. Vous êtes comme moi, auditeur, auditrice, on ne sait pas trop bien où il veut en arriver, mais on poursuit l'histoire. Donc, où est-ce qu'on en était dans cette histoire? Attends, je te remets ton micro. On en était où?
23 avril 2006, altercation. 9 octobre 2006, médiation.
Non, 23 avril, oui, 9, médiation. Et en 2007?
Et 23 mai 2007,
Donc,
audience.
Audience, voilà.
En cour correctionnelle, c'était laquelle? La 16e.
Ouais.
16e chambre correctionnelle.
D'accord.
À noter qu'entre les deux, j'avais reçu un refus d'aide juridictionnelle. Et curieusement, au mois de janvier, j'ai reçu un avis de classement
Sans suite.
sans suite. C'est ma lèvre qui me gêne. Un avis de classement sans suite d'une plainte auprès du service des fraudes que je n'ai jamais déposée. Je
D'accord.
sais pas d'où ça sort.
C'est une erreur. Ça doit arriver. Alors là, on est à l'audience, donc.
Donc, il y a ces avocats qui viennent pas, la partie adverse qui vient pas. Et puis l'avocat de ma mère qui lui vient en bâillant, et il était un petit peu agressif avec moi et tout. Et la présidente de la 16e chambre annonce que je dois suivre une expertise psychiatrique. On commence à s'approcher de notre sujet là.
On y arrive.
Pourquoi? Pourquoi je dois subir une altercation entre j'ai reçu les coups et tout? Pourquoi?
Et pourquoi toi et pourquoi pas les deux?
Bah, disons que l'un habite en Floride, mais enfin.
Alors, est-ce que tu la suis cette expertise?
J'étais en pleine campagne, la présidentielle était perdue. J'étais en pleine campagne législative pour la députée Sandrine Mastier de la 8e circonscription de Paris. Et vraiment, je me démenais. Je voulais absolument qu'elle soit élue. Parce qu'en face, il y avait un certain Arnaud Klarsfeld, que j'aimais pas du tout. Vous savez, l'avocat roulette, là, celui qui avait défendu Papon, qui était contre Papon, là, le fils des Klarsfeld. Bon, j'étais en pleine. Et j'ai refusé la première convocation de la psychiatre. La seule fois où cet avocat maternel, disons, s'est manifesté, c'est pour m'envoyer un courriel de sa secrétaire qui m'a dit, vous savez, c'est important d'assister à l'expertise psychiatrique ordonnée par un juge, même si elle n'est pas obligatoire, votre refus pourrait être très mal interprété. Et moi, d'un autre côté, je me disais, comment une psychiatre va trouver le moyen, je commençais à être méfiant, de transformer un mec comme moi en un type dangereux. J'y vais.
Mais de toute façon, t'avais pas
J'ai
le choix.
été dans le 16e.
De toute façon, t'avais pas le choix aussi. Il
Non,
fallait.
c'était pas
Ouais.
obligatoire. Je pouvais très bien refuser.
D'accord, donc tu y vas.
J'y vais, je tombe sur. Bon, elle avait un petit look de petite mémé, là, gentille. Il y avait plein d'enfants qui jouaient dans la salle d'attente, dans le 16e. Cette salle d'attente, elle servait de garderie pour les gens du 16e. Et puis, elle me pose ces questions. Elle avait une feuille de route que j'ai pas vue, mais elle m'a posé des questions qu'on lui a données. Et tout orienté pour savoir si j'étais dangereux, s'il fallait m'interner, me soigner, patati, patata. Et j'ai été assez loquace. Alors elle a donc écrit que j'étais logoréique. Et parce que je voulais lui expliquer, lui faire comprendre la personnalité de ce millionnaire, qu'il était violent, qu'il m'aimait pas beaucoup, que moi j'avais rien contre lui. Parce qu'il a des problèmes de. Et je lui ai même envoyé une lettre après pour bien rajouter, dire tout ce qui se passait.
Donc très
Et
logorique, très logorique.
j'étais persuadé en sortant de l'entretien que mon frère était plutôt mal parti dans son affaire. Parce que rien dans l'entretien ne pouvait supposer que j'étais dangereux. J'avais parlé de mon addiction, puisque j'aime pas le mot addiction, ça fait droguer, mais enfin, un fumeur d'herbe, de hashish, ne se considère pas comme un drogué. Bon,
ouais. Attends, mais t'en fumais plus.
J'en fumais encore de temps en temps.
En 2007, là?
Ouais. Les derniers joints sporadiques ont été en 2008 ou en 2009, je sais plus. Mais c'était vraiment sporadique, c'était une fois tous les deux ou trois mois, quoi. Parce qu'il y avait des occasions dans mon quartier. Plein de dealers. Mais vu l'état des poumons, c'était assez pénible. Donc. Et puis l'écriture du blog, fumer, ça m'empêche d'écrire. Il y avait plein d'idées dans la tête, mais on se lève pas de son pour aller s'asseoir devant l'ordinateur. C'est plus mon truc, quoi.
C'est l'histoire ancienne.
C'est passé, quoi. Voilà. Non, mais ça correspond plus du tout à. L'état est agréable si on veut, mais ça me convient plus du tout. Mais ça m'est arrivé, je continue à m'obstiner dans ma franchise, même si ça peut me desservir. Ça m'est arrivé de fumer le dernier joint, ça devait être dans je sais plus si c'était en été 2008 ou 2009, je sais plus.
Donc tu dis ça, cette femme qui. Cette psychiatre, quoi. C'était une
oui, parce que je lui avais parlé de ce courriel où il était très méprisant, puis je lui avais dit, ouais, il insistait surtout sur le fait que j'étais un drogué et tout ça. Mais je tenais à lui parler de ce courriel en 2004, quand même, je te ferai interner le moment venu. C'est quand même pas gratuit d'écrire ça. En plus, l'écrire un courriel, c'est un message que je peux imprimer, que j'ai imprimé. Donc c'est quelqu'un qui écrit ça avec la certitude absolue de l'impunité d'arriver à ses fins.
Alors donc qu'est-ce qu'elle retient de cet entretien, cette femme?
Elle n'était pas très loquace par contre, ben et non. Je n'ai pas eu le rapport, je ne l'ai eu que après la cour d'appel, donc c'était l'audience du 23 mai, la psychiatrie, je l'ai faite, je ne me rappelle plus si c'était en juin ou en juillet.
Ça a duré combien de
Nous
temps?
Nous sommes en 2007, en juin. Ça a duré une heure. Après, elle m'a demandé d'attendre un quart d'heure dans la salle d'attente, si je voulais bien. Puis je lui ai dit, ça tombe bien, j'ai une réunion pour Désir d'avenir. Elle n'était pas élue, mais je faisais partie du club de Ségolène Royal. À Montmartre, j'ai une heure, j'ai une bonne heure à tuer et tout, hein, je limite mes déplacements et tout en métro. Ok, on va en reparler encore pendant une heure. Donc, c'est deux fois une heure.
Donc, avec un quart d'heure de battement entre les deux.
Ouais, voilà, dans la salle d'attente, aller jouer avec les mômes. Et puis, j'étais très content d'être là aussi. Parce que j'étais persuadé que vu tout ce que j'avais dit à la psychiatre, et sans vouloir enfoncer mon frère, je lui trouvais presque des excuses. Mais enfin, quand même, faut pas oublier que au départ, c'est quoi? Une altercation où je reçois des coups, puis c'est tout.
Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette consultation?
L'expertise psychiatrique, quand je l'ai lue, hein, il faut savoir que j'ai milité. La candidate députée, je lui ai dit, les avocats, c'est pas la peine d'y compter. Celui de ma mère, il ne se manifeste pas. Il n'a même pas facturé, d'ailleurs. J'ai simplement reçu un courriel. Enfin bref, pour moi, il n'existe pas. Puis dès le départ, les avocats, ça n'existe plus. La police, j'ai compris. Le juge, qui reçoit personne, qui est juste là pour dire il faut qu'il passe une expertise psychiatrique. J'ai compris, je suis tombé dans un piège et mon petit millionnaire, il est tellement riche, il est tellement puissant, c'est vraiment un ami de Martin Bouygues, c'est foutu.
Je suis pas sûr parce que t'es là à nous parler et en t'écoutant, ça serait déjà fait s'il avait tant de puissance que ça. Tu comprends ce que je veux dire? Si vraiment il avait voulu te faire interner...
Tout à l'heure, en antenne, tu me disais, il y a quand même des êtres humains.
Oui, bien sûr.
C'est pour ça que je ne suis toujours pas interné, mais ça va bientôt.
Mais non, ça ne va pas se faire. Alors, le résultat de cette expertise psychiatrique?
Il faut sauter dans le futur, parce que nous sommes toujours en juillet 2007. Elle l'a faite, je ne peux pas la lire.
Ah, tu ne l'as pas vue?
L'audience du 23 mai a été reporté. Alors, c'est ça qui est incroyable en justice. C'est quand même important d'être convoqué à une audience où on va être jugé. Il n'y a pas de convocation écrite. Elle me l'a dit. Parce qu'à un moment, je lui ai dit, eh oh, je suis là. Ah, vous êtes là? Oui, oui.
Et comment tu l'as su?
Les médicaments ont fait leur effet, mais je m'en vais tout de suite. Mais pourquoi une expertise psychiatrique? Ah, mais j'ai pas le temps de vous le dire, il y en a d'autres là. Ah, vous êtes là? Bon, ben, retenez bien la date, le 7, 5 plus 2 septembre. C'est reporté au 7 septembre. Et il n'y aura pas de convocation écrite. Pourquoi? Parce que c'est un renvoi contradictoire. Bon, j'y connais rien en droit, mais enfin, maintenant, je sais ce que ça veut dire. Et c'est vrai, il n'y a pas de convocation écrite. C'est quand même malheureux. Je suis donc venu le 7 septembre pour apprendre que j'avais été jugé en mon absence, sans avocat,
le 5.
Le 5. Personne n'est venu.
Ah oui, mais on ne sait toujours pas le résultat.
La seule personne qui est venue, c'est l'avocat. Eh bien, nous y arrivons.
Parce qu'on a du mal.
Ce qui n'est plus la secrétaire, mais que je savais que c'était une greffière, me dit, bah oui, vous avez été jugé le 5. Pourquoi vous n'êtes pas venu le 5? Bah, on m'a dit le 7. Puis je vous assure que j'ai bien noté la date. On m'a dit qu'il n'y aurait pas de convocation écrite. C'est un truc important. J'ai bien noté la date. Et la candidate députée m'avait proposé une avocate socialiste, entre guillemets, qui m'a jamais démenti sur la date. Elle m'a toujours parlé du 7. Elle m'a toujours posé des lapins. Si, le premier jour, je l'ai vue, elle m'a demandé 600 euros en liquide. Pourquoi en liquide? Parce que ça évite de payer la TVA. Ah, super. Et puis ça lui évite aussi d'avoir des... Et entre mai et juin...
Donc finalement...
Entre mai et juin, elle m'a posé des lapins. Je ne l'ai pas vue, cette avocate. Elle a empoché 600 euros. Elle ne m'a pas démenti les rares fois où elle m'a vu. Elle m'a vu juste un petit peu avant l'audience qui a eu lieu le 2 juin. C'était reporté au...
Au 5.
Il y a eu le report de la première audience du 23 mai pour moi au 7 septembre. Et après, il y a eu la cour d'appel.
Oui, mais alors attends, tu ne nous donnes toujours pas le résultat de tu l'as le résultat de cette entrevue avec
le
la
psy? Le 7 septembre, on m'a dit que j'ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3 obligations à remplir, sinon les sursis tombaient.
C'est quoi les 3 obligations?
Trouver du travail, fournir pendant 2 ans, probation pendant 2 ans, de fournir tous les mois pendant 2 ans des justificatifs de recherche d'emploi.
Tu vois, on a un auditeur qui dit que ça fait une heure qu'il écoute, qu'il comprend rien. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à te suivre aussi.
Qu'est-ce qu'il comprend pas?
Eh ben, c'est très difficile à suivre ton histoire parce que quand je te pose une question, tu n'y réponds pas. On va essayer de revenir. Donc, est-ce que tu as le résultat de l'étude psychiatrique? Est-ce que tu l'as vu, oui ou non, de cette femme que tu as vue 2 fois 1 heure?
Je l'ai vu.
Est-ce que tu as le résultat? Est-ce que tu as...
Je l'ai vu après la cour d'appel. Pour l'instant, on n'est pas encore à la cour d'appel. Pour l'instant, je n'ai que trois pages décrivant mes plaies.
Donc, tu n'as pas le résultat de cette étude.
Donc, le 7 septembre, on me dit que je suis condamné à 6 mois de prison avec sursis et à 3 obligations à remplir.
La première, trouver du travail.
Fournir pendant 2 ans, tous les mois, des justificatifs de charge d'emploi. Alors qu'en 2001, j'ai été déclaré inapte à tout travail à cause de mon emphysème. La deuxième obligation, c'est de trouver un logement.
Parce que tu habites où?
Je suis locataire depuis 30 ans de mon studio. J'ai vécu aux USA, mais je continue à louer le truc.
Donc tu as un logement?
Là, j'ai pas compris.
Mais tu as un logement.
Là, l'auditeur, il a le droit de ne pas comprendre. Moi non plus, j'ai pas compris pourquoi on voulait m'obliger à trouver un logement.
Parce que tu en avais un.
Le juge ne m'a pas vu, n'a pas vu d'avocat. Et m'a jugé en fonction du rapport de police, qui est complètement délirant,
et la troisième...
et du rapport de psychiatrie, qui a affirmé, effectivement, j'ai su par la suite, que j'étais dangereux, en particulier envers mon frère.
Et la troisième obligation?
Me faire soigner. pour dangerosité envers autrui.
D'accord.
Il y a dangerosité envers autrui et il y a dangerosité envers soi-même. Ce sont les deux motifs de psychiatrisation. Là, c'était dangereux envers autrui puisque mon frère a prétendu qu'il n'était pas l'agresseur mais la victime.
D'accord. Alors, ça, c'était en septembre. Non.
Là, oui, nous sommes en septembre 2007. Et je suis donc condamné. Comme je fais appel, la condamnation est suspendue.
Mm-hmm.
Donc, votre auditeur, il va rire, mais je ne cherche pas un logement vu que j'en ai déjà un.
Tu ne cherches
pas
du boulot.
Je ne cherche pas un emploi vu que je suis handicapé
avec
à
une
deux
pension,
ans de la retraite.
Oui.
Et je ne me fais pas soigner non plus vu que c'est assez dur d'être dangereux envers autrui quand on n'est pas méchant et quand on est... enfin bref. Mais j'ai fait appel et c'est là où j'ai pris cet avocate socialiste qui s'est pas du tout occupé de moi, elle m'a pris 600 euros. Et l'appel a eu lieu le 2 juin 2008.
D'accord,
nous sommes en 2008. La justice est assez lente.
Mmh.
Et pendant ce temps-là, j'étais toujours militant.
Ouais.
Mais je commençais vraiment à me poser des questions sur ce que c'était que Non, mais vous ne vous rendez pas compte. L'altercation a eu lieu en 2006. Les faux en témoignage, ça s'appelle des faux en écriture publique. Maintenant, je le sais. Il y a un faux témoignage. Tout ça, ça a eu lieu en 2006. Je me souviens, moi, qu'on avait reproché dans tous les médias à Ségolène Royal d'avoir pris fait et cause pour des fraudeurs à la gare du Nord. Pendant ce temps-là, le ministre de l'Intérieur ignore totalement ce qui se passe au niveau des faux en écriture publique pour son ami Martin Bouygues.
Mm.
Un proche de son ami Martin Bouygues. Pas oublier qu'il a nommé Martin Bouygues comme le parrain. Il est en charge de l'éducation religieuse, le pauvre petit Louis. Il est en charge de l'éducation religieuse d'un des fils de Sarkozy. C'est dramatique.
Ouais, on va rester sur les histoires
donc,
de psy là.
On saute du septembre 2007. Il arrive à suivre quand même l'auditeur. C'est embrouillé, mais enfin quand même avec la chronologie, on comprend.
Donc l'appel.
Je suis condamné. L'appel est suspensif. Et chose incroyable. Bon, donc j'arrive le 2 juin au palais de justice que je commence à bien connaître. L'avocate.
Tu veux lui dire ?
J'écoute.
Alors, une deuxième auditrice qui dit qu'on comprend rien. Et moi, moi-même, j'ai du mal à te comprendre. C'est pour ça que j'essaie toujours Je sais que c'est pas facile pour
ces histoires. C'est une histoire de fou.
C'est une histoire de fou, mais
c'est
ça peut.
C'est une histoire de fou qui est absolument véridique.
Ok. Alors, on essaye d'être en 2000. Donc, t'as fait appel, ok?
Non, je veux savoir ce qu'ils n'ont pas compris.
Je crois que c'est parce que tu.
C'est l'ensemble.
Je pense que moi-même j'ai du mal à suivre parce qu'à chaque fois que j'essaye de t'arrêter sur un truc où j'ai pas compris, t'as du mal à avancer.
Bon, là, j'écoute et je réponds aux questions.
Alors, donc, si j'ai bien compris, il y a une altercation avec ton frère.
Avec un directeur général.
Oui, on s'en fout, c'est pas un problème.
Je crois que ce soit considéré comme une affaire familiale.
Attends, il y a quelqu'un qui essaye d'arriver à l'antenne, mais moi, si je le prends à l'antenne, je peux plus. On va essayer de mettre à l'antenne. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui.
C'est Ahmed.
C'est Ahmed. Est-ce que tu comprends quelque chose, toi, Ahmed ?
Disons que malheureusement, j'ai pas tout écouté.
Oui, donc si tu viens d'arriver, c'est encore plus compliqué.
Oui, mais je vois à peu près le fil de l'histoire.
Ouais,
parce
ouais.
Que, de toute façon, c'est pas son explication du monsieur qui est incompréhensible, c'est l'histoire elle-même qui est incompréhensible parce que lorsque quelqu'un qui est victime d'une cabale un peu comme vous, apparemment. Il n'y a pas de logique, quoi, parce que ça va dans tous les sens. Hein.
Je crois que tu as bien compris, Ahmed, en vérité, ce qui se passe, c'est que lui, c'est la victime qui se retrouve coupable.
Ah oui, c'est très courant, hein, c'est très courant. Hein.
Et ça peut arriver tous les jours.
Ouais.
Voilà, donc Ahmed, il a quand même un peu compris. C'est bien. Tu l'entends ?
Oui, j'ai très bien entendu. Mais il ne connaît pas la fin de l'histoire, c'est une captation d'héritage. Alors, c'est difficile de parler dans le micro parce qu'on s'entend dans l'écoute.
Ah, bah, c'est normal. Mais t'as qu'à baisser. Tu peux baisser ton. Si c'est trop fort, tu peux baisser.
Ouais, mais si l'auditeur m'entend bien, c'est une captation d'héritage et en tant qu'aîné de la famille, je gêne.
Voilà, et donc on est
donc
plus.
Il faut m'éliminer, il faut me faire interner.
Il faut le faire interner parce que.
En fait, c'est pas me faire interner, c'est me faire déclarer irresponsable.
Voilà, l'intérêt de cette émission aujourd'hui, c'est de parler aussi de ces nouvelles lois qui sont votées là pour qu'on puisse interner les gens encore beaucoup plus facilement.
Parce qu'un monsieur a beau être millionnaire, il en a jamais assez, il veut dépouiller ma mère.
Mais en tous les cas, moi je continue à dire que si vraiment il avait tant de pouvoir que ça, tu serais pas là en train de parler ce soir. Tu vois ce que je veux dire. Alors, tu dis qu'il y a des gens qui t'ont aidé, etc. Donc, pour moi, c'est encore pas trop grave ce qui arrive, même si on fait une émission là-dessus. C'est quand même intéressant de... Je crois pas que ce soit qu'une question d'argent. Tu vois ce que je veux dire. Ou alors...
Il n'y a pas de haine entre ce monsieur et moi.
Il n'y a pas d'amour non plus.
Il y a eu des coups de vélo quand même.
Oui, il n'y a pas trop d'amour non plus.
Non, mais moi, je...
Ahmed, tu peux intervenir. Hein.
Non, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans pas mal de cas, même des situations plus banales, quand on fait intervenir la justice pour une agression X, Y, Z ou pour une altercation assez aggravée, etc., quand ça va relativement loin. Par exemple, une personne qui est agressée, qui a pris un coup de couteau, qui se retrouve à l'hôpital pendant 15 jours et tout, ça arrive très souvent que son agresseur ne fait même pas 24 heures de tôle. Hein. Mm-hmm. Et puis, ça va dans tous les sens. Je sais pas exactement, parce que bon, ben, la justice, dans beaucoup, beaucoup de cas, elle fait un peu n'importe quoi, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une secte derrière qui contrôle tout ça pour brouiller les cartes et tout ça? Bon, ben, c'est possible aussi, quoi.
Est-ce que c'est le pouvoir de l'argent? C'est ça qu'on se pose aussi.
Il y a l'argent, mais aussi l'idéologie. Hein.
C'est le pouvoir de l'argent.
Il y a le pouvoir de l'argent et puis il y a le pouvoir de l'idéologie, parce que de toute façon, dans beaucoup de pays, notamment en France, on nivelle les choses par le bas, on fait de la casse, quoi. On fait de la casse dans beaucoup d'institutions. On fait de la casse, par exemple, au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles, au niveau de pas mal de choses, quoi.
Même de la justice, on ferme des tribunaux.
Bah, moi, personnellement, j'ai pas d'argent, hein, donc c'est pas mon argent qu'on veut. Je gêne. Je gêne parce que je suis une barrière entre sa captation d'héritage, son projet, et ce qu'il veut dépouiller, c'est ma petite maman. Qui, elle, a des biens.
Oui,
donc, il faut éliminer l'aîné parce que ça va être expliqué dans la suite de l'histoire. Il a imaginé un truc diabolique. Et là, il n'y a aucun élément dans ce qui a été dit jusqu'à présent qui permet de le deviner. Mais on va le dire et je vais essayer d'être très clair, très direct, de donner moins de détails. Mais ça va m'obliger à être beaucoup plus cinglant. Le seul détail que je donnerai, c'est que mon papa, c'était un petit héros national. C'est un monsieur qui, à l'âge de 19 ans, a rejoint le général de Gaulle, qui s'est battu. Il est resté parachutiste, militaire. Il a collectionné les croix de guerre. Il s'est battu en Indochine. Et il a un placard de médailles, il a la Légion d'honneur. Et il s'est battu pendant 12 ans contre le gouvernement pour obtenir une revalorisation de pension d'invalide de guerre, parce qu'il a été blessé à Dibenfou. Il a sauté en parachute à Dibenfou et pendant qu'il descendait, des éclats d'obus sont montés vers lui. Ça lui a sauvé la vie d'ailleurs, parce qu'il a été évacué tout de suite. Et pendant 12 ans, il s'est battu. Il est décédé sans toucher sa pension. C'était de l'ordre en francs. Bon, maintenant en euros, c'est dans les 15 000 euros. Mon frère connaissait cette affaire-là, il la suivait de près. Enfin, quand je dis mon frère, ce directeur général suivait de près cette affaire. Et chose incroyable, après son décès, en février 2010, la pension a été débloquée. Mais on a demandé à ma mère, un docteur en droit, à qui elle a donné 3 000 euros pour aller en Conseil d'État pour continuer le procès que mon père Bah, il ne pouvait plus le continuer puisqu'il était mort, mais elle était l'héritière, donc elle a été en Conseil d'État. Le Conseil d'État a condamné le ministère de la Défense à rembourser les 3000 euros de frais d'avocat. Bah, devinez à qui ? À la mère et aux trois enfants. Alors qu'elle est la seule héritière sans droit pour les enfants, c'est confirmé par toutes les chambres des notaires, c'est un mariage matrimonial. Donc, il fallait éliminer le vieux frère. Moi, évidemment, j'ai refusé. Et les enfants doivent signer un papier comme quoi ils autorisent leur maman à encaisser l'argent. Alors, d'abord, les 3 000 euros de frais d'avocat, ensuite, les 15 000 euros de pension d'invalide de guerre. Mais beaucoup de gens... j'ai refusé de signer ce papier, évidemment. Mais j'ai rien versé, moi. Et puis, j'ai droit à rien. Tout revient d'après le régime matrimonial. Je vous écoute.
Ouais, on entend... Un retour.
Je parle trop près de mes micros.
Non, mais ça y est. T'es toujours là, Ahmed ?
Oui, j'écoute, je change, je continue.
Oui, alors c'est le truc diabolique que je pouvais même pas deviner, même pas ma mère. Parce que ces 3000 euros, bon, bah, ils sont bloqués, on lui demande de signer un papier, ils appellent ça un porte-fort. Madame, il faut vous engager à encaisser l'argent et à le partager avec vos trois enfants. Elle a dit, je suis la seule héritière.
C'est surtout que, d'abord, ce n'est pas une grosse
somme. Le régime matrimonial communauté universelle, j'ai des papiers de la chambre des notaires comme quoi je suis la seule héritière sans droit pour les enfants. Moi et mon mari, on avait fait exprès pour que tout l'argent revienne aux survivants. Sans droit pour les enfants, c'est clair et c'est net. C'est légal, c'est la loi.
Puis c'est quand même matrimonial. C'est quand même
pourquoi vous demandez, pourquoi vous insistez à ce que je partage avec mes enfants ? Mon frère, mon fils aîné, il a refusé de signer ce papier.
Attends, Patrice, c'est quand même Patrice, c'est pas une grosse somme.
Justement, j'allais répondre à ta question.
Pour quelqu'un qui est très riche,
franchement, à ta question.
3 000 euros plus 15 000 euros.
Oui, j'allais répondre à tes questions. Le but, c'est pas de gagner ça, c'est de lui faire signer. Alors là, on tombe en plein dans cette histoire de psychiatrie. C'est de lui faire signer un document. Et après, tout le monde se serait précipité, enfin ces gens-là seraient précipités en disant, vous voyez, elle est folle. Elle partage de l'argent, elle signe un document, on lui demande de... Elle signe un document comme quoi... Enfin, c'est l'idée que je... C'est ce que j'ai compris, moi. On lui demande de signer un document dans lequel elle s'engage à partager un truc qui lui revient de plein droit. Il faut la mettre sous curatelle, elle n'est pas capable de gérer son argent.
Un peu
et
comme...
Là, c'est plus les 15 000, plus les...
Comme Madame Bettencourt.
C'est tout. Ouais. Et c'est exactement ça ce qui se passe.
Excusez-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas un, comment on appelle ça, un syndic de faillite qui est derrière ça?
Non, il y a uniquement ce directeur qui veut prendre l'argent
parce que c'est tout.
Ouais, mais c'est... la totalité. Et il utilise cette pension de retraite. Mais alors, ce qui est aberrant, est-ce que vous n'allez pas croire, le ministère de la Défense a tanné ma mère entre février 2010, puis ils ont arrêté l'été dernier. Mais madame, si vous ne signez pas, vous n'aurez rien. Ils la prennent pour une gâteuse. Elle a 82 ans, ils la prennent pour une gâteuse. Elle ne l'est pas. Ils prennent leur désir pour des réalités.
Attends, ça serait...
Et là, si elle signe ce papier, c'est la curatelle et toute sa fortune est prise.
Donc vous avez affaire à la mafia d'État, quoi.
Exactement, voilà. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que je me bats.
Bah, moi, ça m'étonne pas du tout. Hein. Ça m'étonne pas du tout. Les gens pensent qu'il n'y a pas de mafia en France. Mais la mafia en France, elle est intégrée. Elle est même dans l'État.
C'est un colonel qui a écrit à ma mère pour lui demander de signer ce papier. Et moi, j'ai téléphoné à ce colonel. Il m'a raccroché au nez dès qu'il a compris que je ne voulais pas signer le papier. Je lui ai envoyé une lettre recommandée. Je l'ai conservée, la lettre recommandée. Il me l'a retournée sans même l'ouvrir. Un colonel de l'armée française.
Mais attends, mais ça, c'est une pension de réversion de veuve de guerre, finalement. Enfin,
Non, elle la touche, sa pension de réversion. Là, c'est une pension d'invalide de guerre. Ce monsieur, il a perdu la moitié de la cuisse et la moitié de la main droite. Il devait toucher cet argent en compensation. Il ne l'a pas touché, il est décédé avant.
D'accord.
Bon,
alors,
ça revient à sa femme.
T'es sûr que ça ne revient pas aux enfants aussi? T'es sûr de ça? Non, mais je pose la question, j'en ai aucune idée.
Le mariage matrimonial de la communauté universelle est formel. Et j'ai une lettre de la Chambre des notaires qui me confirme que je n'ai aucun droit sur les biens
de ma mère. Absolument, le monsieur a raison. En tant qu'adulte, vous n'avez pas le droit. Si vous êtes enfant.
Ouais, si t'es enfant, tu deviens pupille un peu. Enfin, ça fait partie.
Voilà. Donc,
il faut que j'attende que ma mère soit décédée pour toucher quoi que ce soit.
Le fils ou la fille n'a pas le droit.
Il y a différentes sortes de régimes de mariage. La communauté universelle, tout revient aux survivants. Et mon père, qui commençait à se méfier de ses enfants américains, là, il a dit, bon, ben, on va faire ça, on va faire le mariage matrimonial, comme ça, je suis certain, comme je sais que je vais bientôt mourir, que tu auras tout. Eh ben, non. Le pays est tellement pourri que non.
Ouais, mais c'est pas qu'en France, hein, je veux dire, c'est un peu partout. Hein, on est d'accord.
Je pense en Chine, je sais pas.
Bah, tu disais tout à l'heure qu'en Chine. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure que
la corruption est. Alors, s'il y a bien un truc qui est mondialisé, c'est la corruption. J'ai entendu parler de corruption en Chine par l'internet. On apprend des tas de trucs. Il y a vraiment des révoltes. Il y a des. Les seuls endroits où il y a des élections, c'est local, là-bas. Hein. Et ceux qui sont élus sont complètement pourris jusqu'à la moelle. Mais ils sont même arrogants. C'est-à-dire que j'ai entendu parler d'une histoire où un type, il avait renversé quelqu'un, il l'avait tué, puis il a dit « je m'en fous, je suis le fils d'un tel » et tout, voilà. C'est la corruption qui tue, mais c'est une sorte de cancer qui gangrène la société.
Bah, de toute façon, c'est, vous savez, la corruption, c'est un truc qui vient tout de suite après le système... comment on appelle ça ? Le système bureaucratique. C'est-à-dire, dès qu'on commence à aller loin dans le tertiaire, eh ben, après, ce qui vient tout de suite après, c'est la corruption. Alors, il y a la corruption institutionnalisée. Bon, par exemple, pour les pays où le tertiaire domine, c'est le, comment on appelle ça, la concussion, quoi, la corruption institutionnalisée. Et dans les pays où c'est pas encore tertiaire, c'est entre l'air comment dirais-je, c'est plutôt le bakchich.
Et qu'est-ce que t'appelles le tertiaire?
Bah, le tertiaire, c'est-à-dire le paperasse, quoi, la paperasse, société, ouais. La paperasse, la société,
l'administration, quoi, c'est ça.
Comme
non,
en
mais
France, on est
j'ai affaire à la corruption et j'ai affaire à un frère qui est génial.
Donc c'est la corruption, mais institutionnalisée. C'est quelque chose qui est très, 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 très subtil.
Et puis alors, on va en arriver à ces fameuses lois qui sont passées là, c'est quand, en 2010, là, en 2011, là, en août, hein, je crois, ou maintenant, 1er août, où on peut interner une personne, plus avec un psy, mais carrément par les préfets.
Faut quand même un certificat médical.
Oui. Mais c'est les préfets.
Vous savez, des fois, je crois que c'est deux ou trois personnes qui témoignent comme.
Non, un seul médecin maintenant.
Un seul médecin.
Non, je parle de personnes extérieures. Si par exemple on est trois personnes à dire qu'un tel mérite d'être.
Il y a la notoriété publique qui compte.
Voilà.
Si vous êtes mal vu par vos voisins, vous êtes mal parti. Hein.
Voilà.
Mais t'es toujours là, Patrice Hénin. Donc t'es pas si mal vu que ça.
Je me suis quand même fait démolir la figure par un caïd qui a été ordonné. Le massacre a été ordonné par la police. Le type me casse la figure, le caïd, et il téléphone à la brigade anticriminelle. C'est quand même curieux.
Et c'est toi qui est encore qui passe encore pour.
J'ai quand même le maxillaire. Enfin, c'est on me massacre maintenant. Mais je l'ai bien cherché parce que j'ai créé un bouquin. J'ai créé un blog. Un blog, c'est pas fait pour écrire un bouquin. C'est fait pour traiter de l'actualité. C'est un mauvais outil. Mais je peux pas faire du droit. Je peux pas faire de l'informatique. Je peux pas faire de
la justice. Vous savez, monsieur, je vais vous dire une chose. Quand on est dans une société où il y a la confusion entre le bien et le mal, des choses comme ça ne peuvent qu'arriver.
Qu'est-ce que tu ferais à sa place, toi ?
Mais non, mais je me défendrai jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais je veux dire, je m'étonne pas de ce genre de choses parce que on est dans un système de pensée où il y a confusion entre le bien et le mal.
Voilà. Mais il y a une chose, c'est que je suis obligé de continuer à me battre parce que les 2 ans de probation dans lesquels je réponds à la question que tu posais tout à l'heure, Joël. Hein, tu m'as dit, tu n'es toujours pas interné.
Ben non.
J'ai vraiment été convoqué tous les mois, des fois tous les deux mois, par une personne, une juge des peines, des libertés et des peines, qui verbalement était sévère avec moi, très comminatoire, mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Rien. Elle n'a rien fait d'autre que de me convoquer. Et l'assistante pénitentiaire qui m'a convoqué tous les mois, elle m'a pris en sympathie. Elle m'a trouvé courageux. Et ils ne m'ont pas obligé. Alors, à un moment, ils se sont un peu énervés. Ils m'ont dit, bon, pour l'appartement, d'accord, vous en avez un. Bon, pour
le travail.
Le travail, maintenant. En plus, j'étais à la retraite quand ils m'ont convoqué. Hein, je suis à la retraite depuis août 69. Ça la fout bien.
69, non ?
Oui, depuis... depuis août 2009.
Oui, d'accord.
Depuis août 2009, je suis à la retraite et j'étais convoqué pour trouver des justificatifs de recherche d'emploi. J'ai poussé l'amusement jusqu'à aller dans un pôle emploi en disant, voilà, j'ai une condamnation, il faut que je trouve un boulot. Ils s'en sont tirés en me disant, allez voir sur l'Internet. Ils ont dit, non, je vais à un rendez-vous avec un conseiller, je suis condamné, et puis vous n'avez quand même pas... J'ai 6 mois de prison avec sursis.
Et t'avais quel âge, là ?
Hein ?
T'avais quel âge ?
C'était en 2010.
Donc t'avais ?
Hein ?
T'avais quel âge ?
Ben, j'étais retraité à 61 ans. Mais ça se voit pas, j'ai pas le look, hein, tu es en face de moi, j'ai pas la gueule de l'emploi au niveau autre. Mais c'est
amusant.
Comme
quoi, vous voyez bien, vous êtes allé à la NPE.
Mais pour me marrer.
Mais est-ce que
oui,
t'as...
Oui, non, mais c'est pas ça. Vous expliquez presque que vous êtes en danger de mort, les gens ils bougent pas.
Ah, ils m'ont dit, allez sur l'internet.
Voilà.
Bon, mais au bout des 2 ans, mais ils m'ont pris en sympathie. Ça s'est passé au 14 rue Charles Fourier. Mais je vais pas donner le nom de la juge des peines et des libertés parce que elle doit subir des.
Non, mais le dis pas. Mais attends, sur ton blog, j'avais pas vu que t'avais un psy qui t'avait contrôlé avant et qui t'avait trouvé.
Alors
tout à
pour
fait
le,
bien.
Un moment, elle s'est énervée. Elle m'a dit quand même, il faut que vous alliez voir un psychologue et tout. Je lui ai dit bon, si vous arrivez à trouver un psychiatre qui arrive à soigner quelqu'un qui est dangereux, un handicapé, qui court après tout le monde avec un parapluie, qui achète des matraques électriques, alors que je respire maintenant avec un tiers de ma capacité pulmonaire, je ne vais pas m'habituer, mais c'est le cas. Je ne prends plus le métro, je prends le bus. Bon, là, aujourd'hui, j'ai pris le train pour
ouais,
venir quand même,
train, ouais.
Hein, avec un chariot en plus, mais... T'as vu que le portable, l'ordinateur portable, j'ai pris un chariot quand même. Mmh. Mais je résiste bien. Mais elle n'a pas réussi à trouver... je lui ai dit, trouvez-moi un psychiatre ou un psychologue qui veuille bien soigner un handicapé. Comme quoi, j'étais dangereux pour autrui. Hein, c'est-à-dire
je suis censé être
dangereux physiquement. J'attaque tout le monde.
Ça m'étonnerait. Bon. Mais sur ton blog, tu n'avais pas écrit que tu avais été convoqué par un... T'avais vu un psy, un homme, et que lui, il avait trouvé que ça allait bien, et qu'il t'avait demandé une contre-expertise.
Non, il n'y a pas eu de... Du doigt conforme,
non. Bah non, écoute...
C'est comme la fille de...
Mais attends, mais c'est fou, alors le blog, il faut dire quand même une chose, c'est que tu racontes un tas d'histoires, alors, un tas d'histoires qui ne sont pas les tiennes aussi sur ce blog, parce que moi, c'est ce que j'avais lu.
Il n'y a pas beaucoup de copier-coller.
Tu sais, Joël, ouais. à mon avis... Des histoires comme ça, il y en a des centaines.
Voilà, donc il doit donner des exemples.
La mienne est un peu unique. Hein, parce que...
Non, mais il y a 800 pages sur son blog.
Mais chacune est unique. Mais je veux dire, dans le même style,
ouais.
Il y en a des centaines.
Mais j'aurais raconté ça il y a 5 ans, tout le monde aurait dit, bon,
ah,
ben,
non,
on
n'y
comprend
moi,
rien.
Moi, personnellement, ça ne m'aurait pas étonné.
Mais maintenant, les gens autour de moi...
Tout à l'heure, vous parliez d'une avocate socialiste.
Mm. Ouais, bon, enfin,
j'en ai connu un avocat socialiste très célèbre à une époque.
Ah ben lui,
ben, il était dans le même style. Payez-moi en liquide parce que ça me financer la TVA, quoi.
Ouais,
mais ce qu'on voulait dénoncer dans cette émission, c'est que les choses s'accélèrent, vont de plus en plus vite. C'est-à-dire que maintenant, il suffit d'un certificat médical, en principe d'un psychiatre, je crois, hein, quand même.
Oui, même si, oui. Avant, il en fallait deux.
Avant, il en fallait deux.
Oui.
Et c'est plus du tout médical parce que le psy il est facile à trouver. Hein. Il se fait payer 160€ la consultation déjà. Et ça devient une industrie.
Ah bah
on a des exemples. Des exemples.
Vous savez, les psychiatres maintenant, ils vous reçoivent 10 minutes, ils vous écoutent à peine, ils notent 2 ou 3 mots et puis ils vous virent. Hein.
Mais ce qui devient une industrie, c'est qu'on psychiatrise, on rend des personnes. Au début, on s'intéressait aux personnes vulnérables, on les mettait sous curatelle et puis on
piquait
leur salaire et leur bien. En général, c'était les mémés qui ont un appartement, elles sont propriétaires et puis ça dérange un petit peu la famille. Mais maintenant, ça dérange aussi le syndic. Et on fait tout pour leur briser le moral et tout.
Bah, c'est comme je vous ai dit, c'est la mafia institutionnalisée maintenant.
Et puis il y a une nouvelle loi qui est passée en mois d'août là et qui finalement arrange pas les choses. Hein.
Et maintenant qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont plus d'hôpitaux.
Maintenant il faut un dictateur comme Napoléon pour arranger les choses.
Bah, je me propose.
Ah bah je serai votre général.
Il est pas fou. Hein.
Je me propose, très sérieusement, je suis candidat à la 8e circonscription de Paris comme député. Mais mon handicap, justement, c'est mon handicap.
Ouais.
Et je me propose aussi, j'ai été élu au Conseil constitutionnel
dictateur.
Pour leur dire. Non, mais.
Il n'est pas fou.
Ouais, ma dictature, elle serait plutôt sympathique.
Mais c'est ce que disent tous les dictateurs. Hein.
Et puis elle ne durerait pas plus de 2-3 mois.
Ouais.
Non, mais il y a des solutions. Tout le monde me dit qu'on ne peut pas lutter contre la corruption. C'est faux. Il y a une chose que les corrompus et les corrupteurs craignent par-dessus tout, c'est de recevoir une balle dans la tête. Ce sont des gens qui sont concernés, qui sont mouillés.
Tu vois que t'es dangereux. Tu vois que t'es dangereux quand même. Elles ont bien raison.
Non.
Ouais. Ah. Tu vas quand même pas aller jusqu'à là, non?
Je pense que si Sarkozy était...
Quelqu'un qui va jusque-là, il n'en parle jamais. Hein.
Je suis d'accord avec toi, mais quand même...
Quoi? Mais non. Tu sais très bien qu'un chien qui aboie ne meurt pas.
Bon, il y a déjà la disparition de l'argent en liquide. C'est très précieux pour la corruption. Elle se fait sur... c'est un phénomène économique. L'argent liquide, sous forme liquide, les papiers, la monnaie, est de moins en moins utilisé. C'est prouvé par les statistiques. C'est de plus en plus électronique. Mais alors, il reste encore la cybercriminalité,
les
fraudes.
Les statistiques eux-mêmes ne sont pas corrompues, ils peuvent l'être aussi. Hein.
Je rappelle que ce directeur de chez Bouygues Immobilier, quand il me racontait ses frasques, il me disait « Je balade des sacs marins remplis de Pascal et je prends pas l'avion, je prends le TGV pour aller voir Michel Noir à Lyon. » C'était des sacs marins.
Ouais, mais ça, on s'en fout, c'est pas le problème. L'intérêt, c'est qu'on reste.
Évidemment électronique.
On reste dans le.
C'est un moyen de lutter contre la corruption et ça se fait tout seul naturellement. L'argent en liquide disparaît petit à petit des habitudes.
Il s'évapore. Parce que le liquide, on sait bien que ça s'évapore.
Non, ça coûte plus cher de fabriquer une pièce d'un centime que sa propre valeur. Les Finlandais l'ont bien compris, ils ont éliminé les pièces de 1 centime, de 2 centimes et de 5 centimes. Ça coûte trop cher à fabriquer.
Enfin, si tu as une valise de pièces de 1 centime, je vois pas l'intérêt.
Mais j'avais discuté avec Jacques Généreux dans le 12e, c'est bien parce que c'est un grand arrondissement. Et pendant que j'étais militant, j'ai rencontré des gens assez importants, dont Jacques Généreux. Je lui ai parlé de la corruption et tout. Puis il m'a dit, vous croyez qu'il se balade avec des valises? Je lui ai dit, non, des sacs marins.
Mais qu'est-ce que vous avez tous? Parce que quelque part, tu es encore dans la politique, toi. On est d'accord? Même si tu te dis que tu es plus militant.
Ben, je suis contre la corruption.
Qu'est-ce que vous avez tous à laver vos linge châles, etc. Il n'y a pas d'autre chose de plus intéressant.
Moi, je demande à passer une retraite tranquille. Au départ, j'avais créé un blog pour raconter ma vie de militant. Bon, ben, maintenant, je raconte ma vie tout court. Et puis, je crois que c'est mon devoir de raconter ce genre de choses. Le cacher, comme le font les véritables criminels, ce sont les médias. Joël, t'es exclu des criminels. Puisque tu m'as donné un micro.
Et je te donne la parole parce que pour moi, je t'ai
c'est
dit...
C'est la première fois depuis 5 ans que j'ai un micro.
Bah oui, mais bon, parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait une
certaine... Mediapart me connaissent. Ils ont même un article qui arrive en tout premier quand on me recherche. Et dans cet article, cette lettre quand même, cette lettre au président de la République, je raconte qu'il y a un handicapé qui est condamné à trouver un boulot.
T'auras qu'à la lire tout à l'heure.
Un locataire qui est condamné à... Bah, c'est tout, je la raconte là. Un locataire qui est condamné à trouver un logement. Pourquoi? Parce qu'il a été jugé à l'aveugle. Il n'avait pas d'avocat, il n'était pas là. On s'est arrangé pour qu'il ne soit pas là.
Ok, mais dans
pourquoi
tout...
faire ça?
D'accord, il y a cette partie de ton histoire qui me plaît bien, puis il y a l'autre partie qui me plaît moins bien, parce que où tu vas dénoncer des choses qui... En ce moment, il n'y a que ça partout, c'est-à-dire au lieu de s'occuper
mais
de
la
politique...
C'est la fin de la civilisation.
Voilà, c'est... on est d'accord. Au lieu de s'occuper de ce qui dérange...
Les criminels. Hein, les juges doivent rendre la justice. C'est tout ce que je demande. Et je crois qu'il y a des gens, ça fait des millénaires qui demandent la même chose.
Oui, et alors on est en train de nous balancer des trucs
à la
Troscane et des choses comme ça. On est en train de nous parler. Bon, bien sûr qu'il y a de tout ce qui est scandale. Des scandales politiques, il y en a tous les jours, des scandales. Hein. Et pendant qu'on parle des scandales qui sont là, on est d'accord, on parle pas de ce qu'on pourrait faire pour arranger cette société. Donc, quelque part, sur cette partie de l'histoire, moi, ça m'emmerde parce qu'on n'est pas là pour mettre un scandale de plus sur la table. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qu'on est là,
non,
c'est...
Non, parce que si on commence à les mettre sur la table, je crois que la table, elle ne suffira pas.
Est-ce que tu m'entends, celui qui est à l'antenne avec nous?
Oui, oui, je t'entends bien, Joël.
Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
Ah oui, oui, bien sûr, mais le problème, c'est que c'est...
Ça fait partie de l'histoire, mais en même temps, on est en train de servir. Enfin, je sais pas comment expliquer.
Non, mais parce que les histoires, ces histoires-là, elles se ressemblent toutes en étant complètement différentes. Mais elles ont toutes des points communs. Tu comprends ce que je dis?
Ah ouais, c'est l'histoire de Madame Bettencourt qu'on essaye de faire passer pour dingue parce que sa fille, soi-disant, elle veut récupérer. On sait pas exactement. Mmh, ouais. Dès qu'il y a de l'argent, en ce moment, il y a que cet argent qui compte. Mmh. Alors que la société est en train de crever, et c'est comme si on remontait toute la vase, toute la lie à la surface.
Ouais,
on fait des bulles, on fait des bulles et on s'étouffe en dessous.
Ben oui.
Je crois que la généralisation mondiale presque de la corruption est due au fait que l'économie va très mal. Quand on en arrive à voler sa mère, même quand on est millionnaire, c'est, et que c'est pratiquement admis par la police, la justice...
C'est
que l'économie, elle existe plus. L'économie réelle ne marche plus.
Mais je suis pas persuadé que la police et la justice soient au courant.
Prenez par exemple une œuvre d'art.
Attends, il parle.
Vas-y, allô? Vas-y. Oui, on t'écoute, oui.
Une œuvre d'art.
Une œuvre d'art qu'on estime à, je sais pas moi, à 10 millions d'euros. Non, mais est-ce bien raisonnable, franchement?
Ben, c'est un placement pour celui qui l'achète.
Eh ben voilà, mais je veux dire, après, la valeur de quelque chose, c'est... On nous raconte n'importe quoi.
Bah, c'est-à-dire que ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent, ils savent plus quoi en faire, donc voilà, c'est un placement.
Ah voilà, mais le problème, c'est parce qu'on est dans une société qui accepte le mensonge à partir du moment où c'est dit par quelqu'un de puissant, quelqu'un de riche, etc.
Mais si celui qui a son œuvre d'art, il est content de regarder ses 10 000 euros qui sont... en forme de tableau, de sculpture,
non, mais
de
ce moi, que tu veux, c'est son... Ce que j'aime pas là-dedans, c'est le peuple qui acquiesce.
Ben, on n'a pas trop les moyens de faire autrement.
Il est impuissant ou il est pauvre.
Ben oui, mais le problème, c'est que moi, quand on me parle, par exemple, de l'art moderne, je crache par terre. Et c'est ma façon de dire que moi, j'accepte pas le mensonge.
Mais je comprends ce que vous voulez dire, parce que moi, une œuvre d'art, bon, j'aime bien la regarder... Mais ça m'intéresserait pas de la posséder.
Non, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, bon, par exemple, un tableau fait au XVIIe ou au XVe siècle, là, pour moi, c'est de l'art. Mais l'art moderne, c'est n'importe quoi. N'importe quel dégénéré peut faire la même chose.
Là, on dévie un petit peu, là. Mais,
non, mais on dévie un petit peu, mais je veux dire, c'est tout un ensemble. À partir du moment où on accepte les choses... le mensonge du moment qu'il est proposé par des puissants et par des riches, donc après on peut justement dévier parce que les choses sont liées.
Vous n'aimez pas l'art moderne et vous le prenez comme exemple, comme une chose stupide qui peut valoir des millions. C'est ça.
Oui, mais c'est parce que les gens ont choisi le mensonge comme réalité.
Ouais,
voilà.
C'est une façon. Ouais, c'est un exemple. Enfin, il peut y avoir des personnes qui aiment l'art.
Il y en a plein d'ailleurs.
Il peut y avoir des personnes qui aiment l'art moderne, là où je précise, c'est que si j'étais un fanatique de l'art moderne, des choses un petit peu, tiens, ce qui était exposé au Versailles, qui avait fait un scandale, là, j'aimerais le voir, mais pas le posséder.
Ouais, ouais, mais même moi, même pisser dessus, ça me donnerait des boutons. Un autre exemple aussi, parce que comme on aime le mensonge, vous vous rappelez, il y a quelques années de ça, il y a eu une opération du cœur assistée par ordinateur.
Ouais.
Et voilà que les médias commençaient à faire du bruit. Maintenant, la médecine elle a progressé. On fait ceci, on fait cela. Il s'est passé qu'une seule fois une démonstration, et tout le monde croit que maintenant n'importe qui peut se faire opérer du cœur et il aura un cœur tout neuf, etc., etc. Il a suffi qu'il ait une démonstration.
Attends, là-dessus ils ont fait des progrès quand même, hein, maintenant.
Non, mais. Oui. Ne confondons pas une démonstration exceptionnelle pour croire que tout ça c'est courant. C'est pas courant. Et on n'est que dans le mensonge permanent. Ben après, il faut pas s'étonner qu'il arrive des trucs comme ça. Mais oui, il y a que ça, puisqu'on vit dans une société de mensonge. On aime le mensonge.
Ouais, et ce qui est un peu dommage quand même, c'est que là, on peut, avec cette nouvelle loi, on peut interner n'importe qui, on est d'accord,
Patrice. De toute façon, les taux se resserrent de plus en plus, hein, plus on n'avance pas dans le temps.
Elle a été créée pour ça. Parce
exactement.
Que,
pour se débarrasser de ceux qui gênent.
Toujours.
Si j'en reviens à la notoriété publique, là, on a des exemples, les gens n'ont pas voulu... j'enlève l'écouteur parce que ça résonne.
Mais tu vas plus l'entendre.
On a des exemples de personnes qui ont été pratiquement internées, hein, les 72 heures, sur plainte d'une voisine. Faisait trop de bruit. Et c'était faux. Hein. C'est une voisine qui n'aimait pas, c'est tout. Et c'était archi faux. Bon, la police, au lieu de le prouver, elle a essayé de tout faire pour qu'il y ait la psychiatrisation, l'internement. Et on en arrive de fil en aiguille. Quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on va voir une voisine. Vous n'avez pas l'impression qu'il fait un peu trop de bruit, là, votre... non. Si, il fait du bruit, vous cherchez du travail, vous faites, là, parce qu'on pourrait vous en proposer. Voilà, on s'achemine vraiment dans un système qui est complètement... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est plus que de la pourriture, c'est de la barbarie, c'est le Moyen-Âge.
Même ça se trouve, au Moyen-Âge, il n'y avait pas tout ça. Hein.
Il n'y avait pas les techniques, ouais.
Il n'y avait pas les techniques et, à mon avis, il n'y avait même pas l'idéologie. C'était uniquement dans certains petits milieux pourris, c'est tout. Hein. Mais la majorité de la population n'avait pas le temps d'avoir ce genre de pensée malsaine.
J'ai un espoir quand même, c'est que tout cet amoncellement de mensonges, c'est un château de cartes qui ne tient pas debout. Le moindre souffle de vérité, et cette radio en est une, ça peut tout faire s'écrouler. Les véritables criminels, pour moi, ce sont les médias qui mentent, qui racontent des conneries. La tuerie d'Oslo, par exemple. Vous avez compris quelque chose, vous, à cette histoire ?
Ouais, c'est complètement controversé.
Il y avait un hélicoptère, après il n'y en avait plus. Oui, il était en panne. Il y a eu un bateau. Le bateau était en panne. Il y avait plusieurs
C'est comme le 11
tireurs.
Septembre, c'est exactement pareil.
Il y avait 96 morts, maintenant il n'y a plus que 77. Vous avez compris quelque chose, vous, à ça ? Moi, j'ai compris ce qui s'est passé. DSK, moi, je pense qu'il est tombé dans un piège, il l'a dit ce soir. Pourquoi ? Patron du FMI, il voulait faire la monnaie, il voulait sauver le dollar. Ça ne plaît pas beaucoup aux pays émergents, le BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine. La tuerie d'Oslo, il y a un rapport. Ces gens-là, ils ont donné un prix Nobel de la paix à quelqu'un qu'il ne fallait pas le donner. Donc, c'est une bonne petite baffe. Et en plus, ils sont pas loin de la banquise, l'ex-banquise qui a fondu, avec toutes ses réserves pétrolières en dessous. Donc, il fallait leur faire comprendre qui étaient les vrais maîtres du monde. Et puis, on organise une tuerie. Et puis, on prend n'importe quel cinglé local. Et en plus, ça permet de critiquer... le monde occidental et puis l'extrême droite, le réveil des nationalismes des fois.
Alors que le mec il est franc-maçon.
Ça permet de critiquer les francs-maçons et tout. Enfin, c'est il est
et
rien du tout ce mec.
Et en plus il est socialiste.
Et en plus il a écrit il a mis des années. Au début on nous disait il a mis des années à écrire son manifeste et puis quelqu'un a dit ce manifeste il existe depuis il a été écrit par un cinglé du même acabit il y a à peu près une vingtaine d'années aux USA, ils ont juste changé quelques mots. Bon, on se fout de notre gueule. Les médias sont des criminels.
Ah bah bien sûr.
Parce qu'un juge pourra faire n'importe quelle saloperie en jugement, les policiers pourront faire n'importe quelle saloperie, à partir du moment où cela se sait, cela s'arrête.
Ben, écoute, moi, je sais pas, je t'écoute, je connais pas ce truc d'Oslo parce que je m'y suis pas vraiment intéressée, je dois dire que
c'est
plus
ça... C'est mon interprétation, mais...
Non, mais plus ça va, plus je prends du recul, surtout. Enfin, franchement, je pense qu'il y a des choses tellement importantes...
La tuerie d'Oslo, on n'a rien compris.
Non, et puis, je savais qu'il y avait une tuerie, mais j'ai pas essayé de comprendre. Parce que finalement, quand on a toutes ces informations, ça rend malheureux.
Absolument, absolument.
Et c'est pas du bonheur, et... Voilà.
Parce que tout est complot maintenant, hein. Tout est complot.
Voilà. Et nous dans l'histoire.
Toutes les affaires, elles ont toujours c'est des billards à trois voire à quatre bandes.
Et tout ça c'est fait pour qu'on ait plus confiance en rien. La preuve c'est que toi-même, Patrice, t'as changé de clan. On est d'accord. T'es parti dans un autre camp.
Non, je suis redevenu simple républicain. je pensais à créer une sixième république, mais maintenant. Je m'en fous du numéro, la cinquième. À partir du moment où on respecte les lois, ça marche. Quel que soit le numéro de la République, si personne ne respecte les lois, il n'y en a aucune qui marchera. J'en reviens toujours à ma lutte. La première lutte, c'est contre la corruption. Et là, j'ai des mesures assez sévères pour ça.
Ouais. Enfin, moi, je me battrai pas si haut, tu vois, parce que je veux dire, ça me semble très très haut.
Il le faut, puisque nos ennemis sont hauts, sont puissants.
Oui, mais les ennemis sont puissants. Mais
et
là,
nous, on a le nombre.
Mais comme c'est que la puissance de l'argent, et qu'il semblerait que l'argent en ce moment, elle soit quand même beaucoup.
L'argent moins... n'existe même plus. On ne sait même pas ce que c'est que l'euro.
Voilà, on ne sait même pas où est-ce que ça va mener, là, donc je suis curieuse de voir la suite.
Ben, on ne va pas s'abuser.
Ça dépend. Ça dépend, c'est
à moi, je me suis abusé. Du nouvel ordre mondial, on avance à grands pas aussi. Hein.
Oui, mais lequel? Parce qu'au départ, il y avait le nouvel ordre mondial imaginé par le groupe de Bilderberg. Parce que j'en ai fait des progrès en politique quand même. Grâce à l'Internet, on apprend des tas de trucs. Ah, j'avais demandé à Mélenchon, j'avais posé la question à Mélenchon au cours d'un meeting. Vous pourriez nous parler un peu du groupe de Bilderberg? Il m'a dit, mais que c'est que ça? D'un air moqueur, qu'est-ce que c'est que ça? Mais tout le monde le connaît.
C'est des imbéciles. Et ils le font exprès, c'est tous, ils marchent tous avec.
Mais le groupe de Bilderberg lui-même est chapeauté par les milliardaires des pays émergents.
Alors il y a Myriam qui intervient, une autre femme à l'antenne. Bonsoir Myriam.
Bonsoir Joël, bonsoir Patrice et bonsoir Ahmed.
Bonsoir.
Oui, bonsoir Myriam.
Oui, j'ai bien écouté là. Et je me disais que c'est tristounet ce soir.
Alors, est-ce que c'est tristounet ce soir?
Bon, allez, je vais vous raconter une histoire marrante.
Allez, s'il vous plaît, une histoire
j'ai décidé marrante. De me présenter à la candidature de la présidence et j'ai téléphoné hier au Conseil constitutionnel. Mais je leur ai dit, vous m'envoyez quelques exemplaires